Rencontre avec un élu. Une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec un élu. On accueille aujourd'hui Christian Béraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Arpajon, dans l'Essonne, une ville de 11 000 habitants. Vous faites partie du programme Action Cœur de Ville, comme 245 villes qui ont été lauréates de ce programme depuis 2018. On a écouté attentivement les propos du Premier ministre lors du dernier Salon des maires qui a annoncé une vague 2 du programme Action Cœur de Ville pour accélérer et continuer ce projet de revitalisation urbaine. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce programme justement pour accompagner la politique de l'habitat dans les villes moyennes, et j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour une ville comme la vôtre de pouvoir voir ce programme qui continue.
Oui, tout à fait, c'est une excellente nouvelle. Alors, comme vous le savez, Action Cœur de Ville est en place depuis plusieurs années. Ça a été un véritable booster pour les villes moyennes en particulier, hein, qui ont beaucoup souffert du développement des périphéries et de l'abandon progressif d'un certain nombre de centres-villes. Et donc, le travail qui a été réalisé sur les infrastructures, les mobilités, le commerce et le logement était important. Je dirais que dans un premier temps, Action Cœur de Ville a privilégié les infrastructures, en particulier hein, le développement des mobilités, stationnement, et puis les espaces publics. Et là, maintenant, il était important que l'on puisse se pencher sur le sujet du logement. Du logement et aussi, en particulier, de la résorption d'un certain nombre de friches. On voit dans beaucoup de villes moyennes des friches, alors soit industrielles ou administratives, qu'il est nécessaire de traiter.
Juste, je rappelle que donc le programme Action Cœur de Ville depuis 2018, c'est 33 000 logements réalisés, plus de 280 000 réalisés et rénovés. Donc il y a vraiment un focus aussi là-dessus qui a été assez fort.
Exactement. Action Cœur de Ville porte sur ces 4 volets hein, dont on parlait, dont le logement, mais sur la deuxième phase d'Action Cœur de Ville, je crois qu'on va porter vraiment nos efforts sur le logement. Il est important de mettre autour de la table tous les acteurs hein, du logement. Je pense à Action Cœur de Ville, je pense à l'ANA, je pense aux bailleurs privés et publics. Et puis cette façon de travailler ensemble pour avoir une offre de logement de qualité. Alors une offre de logement neuf et rénové. Alors rénové sur le plan structurel et rénové sur le plan thermique.
Ça veut dire que vous allez aussi viser tout ce qui est lutte contre l'habitat indigne, contre les logements vacants, où il y aura peut-être un effort supplémentaire mis sur la table.
Oui. Alors, par exemple, pour la ville que j'administre, que j'ai la chance d'administrer depuis 25 ans, cette ville dispose d'un nombre de logements importants en centre-ville, avec des logements vacants qui ne sont pas rénovés sur le plan structurel ou thermique, okay. Et il est important d'y travailler.
Vous avez parlé tout à l'heure de booster les villes moyennes, et c'était un booster pour ces villes moyennes. Là, on vient d'évoquer justement le fait de rénover les logements. Il y a un nombre d'outils qui ont été mis en place aussi dans votre territoire en matière d'incitation et d'action coercitive pour essayer de faire bouger les lignes, et ça a eu des effets positifs?
Oui, alors tout à fait, on travaille sur déjà les dents creuses ou les friches immobilières qu'il a été nécessaire de traiter en réinjectant du logement neuf. Et pour tout ce qui concerne le logement ancien, on utilise des outils qui sont aujourd'hui connus, hein, comme les OPH, oui. Mais on utilise aussi d'autres types d'outils pour contraindre les propriétaires à rénover leur logement, tels que les permis de louer.
Et ça fonctionne plutôt bien. Les gens jouent le jeu, les gens comprennent l'intérêt et l'enjeu.
Progressivement, les gens comprennent l'enjeu, mais on sent bien que l'enjeu économique pour les bailleurs, en particulier les bailleurs privés, hein, est important, et il n'est pas évident avec une aide publique
d'inciter, de prendre en charge, 100%
prendre en charge, ou voilà, tout à fait.
Alors, il y a aussi ce sujet des intercos, des agglos, où finalement, il y a aussi des compétences qui peuvent être déléguées en fonction de la strate de la collectivité. Est-ce que finalement, les agglos, les intercos ne peuvent avoir qu'un rôle essentiellement que redistributif? Et comment est-ce que finalement, ces collectivités et ces échelons administratifs pourraient mieux aider les territoires, pour notamment éviter la complexification et que chacun joue un rôle spécifique et que ça se complète plutôt que ça se juxtapose et que ça puisse avoir un effet un peu négatif, entre guillemets, sur la mise en œuvre des projets. Comment vous voyez les choses et comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus ?
Déjà, j'utiliserai le même vocable que tout à l'heure. Les agglos ou les communautés de communes, communautés d'agglos, communautés urbaines ont été de véritables boosters économiques pour les territoires. Il faut l'admettre, bien évidemment. Un certain nombre de compétences lourdes ont été prises en charge par ces agglomérations, qu'il s'agisse des voiries, de l'assainissement, du transport. Et certaines agglomérations, en fait, ne se contentent maintenant que de redistribuer, alors soit par le biais des FPIC de la DSC, de la dotation de solidarité urbaine. Ce sont des outils qui permettent aux villes de bénéficier de dotations supplémentaires, mais qui ne permettent pas en fait d'avoir une vision globale et communautaire du territoire. Donc il est important, je pense, de travailler sur ces compétences lourdes et de travailler plutôt que sur la redistribution, sur des projets à vocation vraiment intercommunale.
Donc ça veut dire qu'il faut mutualiser quelques projets en se disant finalement ça va concerner plusieurs collectivités de cette intercommunalité et ensuite faire remonter pour avoir une action efficace à l'échelle de tous les territoires de la circonscription.
Ouais. Alors ce qu'on voit en particulier dans les intercommunalités provinciales où on a une ville-centre et on voit bien comment se développe le territoire autour de cette ville-centre, sur les territoires où les agglomérations multipolaire en quelque sorte, on a beaucoup plus de difficultés à travailler sur ces sujets et on se contente plutôt que de développer sur ces pôles centraux plutôt que de développer des projets, bien de redistribuer en fait à l'ensemble des communes. Et là, je pense que c'est une limite de la mise en place de ces intercommunalités. Et je pense que en 2027, il sera particulièrement important de travailler sur les rôles de chacune de ces strates, hein, que ce soit la commune, l'interco, le département et la région, en s'appuyant vraisemblablement sur la commune, mais dès lors qu'elle a une consistance suffisante.
Il y avait plusieurs fois, et le sujet revient régulièrement, de la décentralisation et peut-être d'avoir un projet de loi qui serait pris pour transférer à nouveau des compétences aux collectivités qui sont au cœur du quotidien des Français, puisqu'évidemment c'est toute l'organisation de notre train de vie. Donc finalement c'est plutôt un sujet sur lequel vous seriez partisan en vous disant, eu égard à ce qu'on vient de dire, il y a toutes ces strates et ces compétences, peut-être clarifier à nouveau qui fait quoi, comment, et pour répondre au mieux aux besoins des habitants.
Clarifier et simplifier. Et je pense que globalement, tout le monde s'y retrouvera. Et bien sûr, si je parle des piliers représentés par les communes, il faut qu'en effet qu'elles aient une consistance suffisante pour pouvoir travailler et sur la proximité et disposer des moyens suffisants pour développer leurs projets. Après, les compétences beaucoup plus lourdes pouvant être prises par les strates ou par les instances au-dessus.
On a parlé évidemment de la vague 2 du programme Action Cœur de Ville qui a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Au-delà de l'habitat et du commerce, qui sont évidemment les deux enjeux principaux, vous pensez qu'il y a d'autres enjeux qui doivent être traités en priorité, ou finalement ça reste quand même les deux sujets qui sont le quotidien des territoires qui sont concernés par ce programme ?
Les sujets, c'est, en effet, comme vous le dites, particulier le logement mais, et le commerce, il ne faut pas oublier les espaces publics et les mobilités
que vous évoquiez
qui sont essentiels. Après, moi, je pense que les centres-villes ou les cœurs de ville sont avant tout des lieux de développement en termes social et aussi en termes économiques. Et il est important de réinvestir ces centres-villes, de retrouver dans ces centres-villes une offre vraiment très diversifiée, qu'il s'agisse de commerce, qu'il s'agisse de services privés ou publics, qu'il s'agisse d'animation à caractère commercial ou à caractère culturel.
Et donc il faut repenser et voir quelles solutions on peut apporter justement pour que bah, les gens viennent consommer, les gens viennent se loger et essayer de répondre à leurs préoccupations
voilà,
du quotidien.
Tout à fait. Le centre-ville, c'est un lieu de vie et pendant plusieurs années, on a plutôt travaillé sur des modèles excentrés, sur des modèles de développement en périphérie de ces centres-villes et aujourd'hui on s'aperçoit que en particulier pour les villes moyennes, on a vidé les centres-villes et du coup, l'âme que l'on pouvait retrouver dans les villes n'y est plus.
J'ai souvenir que, justement, dans les villes Action Cœur de Ville, dites villes moyennes, une grosse partie de la population, je crois que c'est autour de 79-80%, va faire ses courses en zone périphérique. Comment est-ce qu'on arrive, justement, à donner envie aux gens, au-delà de commerce diversifié, de vitrines peut-être un peu alléchantes, donner envie à tous ces gens de revenir? Il y a notamment ce sujet de la mobilité. On se dit, tiens, centre commercial, je garde ma voiture, hop, je vais faire mes courses, je reviens, versus le centre-ville où bah, ça peut être piétonnisé, ça peut être difficile de se garer, c'est payant.
Ouais. Alors, il y a évidemment l'accessibilité et il y a la diversité de l'offre. Qu'il s'agisse d'une diversité commerciale, qu'il s'agisse d'une diversité de services, qu'il s'agisse d'une diversité de logements. On a évoqué le logement tout à l'heure. L'offre de logement, elle est évidemment diverse. Hein. On peut travailler sur l'accession à la propriété, on peut travailler sur l'accession sociale à la propriété, on peut travailler sur les logements purement sociaux, on peut travailler sur les logements intermédiaires. Et donc, il faut qu'il y ait une diversité d'offres suffisante pour que l'on puisse capter le maximum de personnes possibles et d'habitants potentiels possibles.
J'ai noté ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est un mot que vous avez utilisé deux fois, booster des territoires.
Oui.
On va suivre bien évidemment cette vague 2 et puis voir comment est-ce que les projets continuent à se mettre en place dans les territoires. J'ai noté donc mobilité, sujet évidemment lié à la bêta et au commerce. Donc merci pour ces précisions avec justement le rôle que les intercommunalités jouent et ces différentes strates. Merci monsieur le maire d'avoir été présent avec nous pour ce décryptage et évoquer justement les prochaines étapes dans le cadre de cette seconde vague du programme Action Cœur de Ville. À très bientôt, merci.
Je vous remercie.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Compublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.